BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, c'est parti pour BFM Patrimoine. On vous accompagne 2 heures durant pour gérer au mieux votre argent. Et on file tout de suite sur les marchés. C'est Antoine Larigauderie que l'on retrouve chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Comment ça démarre sur une première journée importante puisque la Fed débute sa réunion?
Absolument, la réunion de son comité de politique monétaire, c'est autour de ça que se cristallise l'attention des investisseurs. On l'a vu du côté de Wall Street hier soir, le sentiment était quand même passablement négatif. On a vu les indicateurs de volatilité remonter. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si vous regardez tous les indicateurs qui sont tombés ces derniers jours et même ce matin, du côté de la zone euro, du côté des États-Unis, du côté de partout à travers le monde, on a une économie mondiale qui résiste, qui est résiliente, avec des pointes de dynamisme même sur certains secteurs et parallèlement des poussées inflationnistes qui restent très coriaces, très tenaces. Qu'est-ce que ça veut dire? On a quand même une réunion de la Fed qui se prépare, la réunion de la BCE jeudi. On se dit que les banquiers centraux vont se révéler peut-être beaucoup plus fermes qu'attendu dans leur attitude. Du côté de la Fed, on s'attendait à ce qu'elle ralentisse un petit peu la cadence de son processus de normalisation monétaire en ne remontant ses taux que de 0,25%. Et là, du coup, on est en train de se dire peut-être qu'on a sous-pricé ça sur les marchés et donc que se prépare une sorte de piège à boules sur les marchés gigantesque qui pourrait provoquer une réaction violente si la Fed est plus sévère que prévu. Donc du coup, on est très prudent, on essaie de peser le pour et le contre et ça provoque cette tendance à la prudence mais exacerbée sur les marchés. On est en repli de 0,35% pour le CAC 40, on était quasi inchangé tout à l'heure, 7058 points, donc on sent de la pression sur les indices européens. Même chose pour l'Eurostock 50 qui recule de 0,36% et moins 0,42% pour le DAX à Francfort. Alors malgré tout, il y a un secteur qui va bien et qui est bien orienté. C'est le secteur bancaire, le grand oublié de ces derniers mois. On ne savait plus quoi faire du secteur bancaire et là, on a des bonnes nouvelles en provenance d'UBS, en provenance d'UniCredit en Italie et on espère des nouvelles meilleures qu'attendues pour l'ensemble du secteur bancaire européen. Donc Société Générale gagne 1,47%, c'est la plus forte hausse du CAC à 27,01. On a également Crédit Agricole, plus 0,35 à 10,98 ou BNP Paribas, plus 0,27 à 62,28. Sinon, on revient sur des valeurs plutôt défensive. Pernod Ricard plus 1,13, 188,20€. Et Essilor Lussotica plus 0,7 à 167,50. Et Danone plus 0,38 à 50,29. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Seb, qui se détache bien, plus 7,3%, 95,25€. À la baisse, on retrouve un petit peu de tout. Alors, à surveiller quand même ce qui se passe autour du pétrole. On a une consolidation très forte, très nette, depuis ces dernières heures sur le Brent de mer du Nord, qui maintenant cote à 83,44$. Hier, on était encore au-dessus des 80. On est à 76,80 pour le baril de brut léger américain et du coup dans le sillage total recul d'1,2% à 57,19. Sinon les plus fortes baisses du CAC, Saint-Gobain moins 1,8 à 52,46. On a ArcelorMittal moins 1,47 à 28,49. ST Micro moins 1,3 à 43,01. Et la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour la Française des Jeux qui recule de 5,7% à 38,45. Le CAC moins 0,39, on est à 7054 points et l'euro faiblit face au dollar. On est maintenant sur le fil d'1,08 après plusieurs échecs au-dessus d'1,09. 1,0812 en ce moment, Cédric.
Merci beaucoup Antoine. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette journée boursière. Et puis tout de suite, on retrouve l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, la croissance a tenu l'année dernière. Malgré la crise énergétique et la flambée de l'inflation, le PIB a progressé de 2,6% en 2022. À noter un ralentissement au quatrième trimestre plombé par la nette baisse de la consommation des ménages. Bruno Le Maire salue la capacité de résistance de l'économie. Une économie résiliente, c'est aussi le constat dressé par Nicolas Carnot. Le directeur des études économiques de l'INSEE était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Il y a bien un ralentissement, un refroidissement de l'économie française, mais clairement, on évite le pire. On conserve une dynamique positive de croissance, alors qu'on pouvait craindre, d'ailleurs l'INSEE lui-même avait craint une petite baisse du PIB au quatrième trimestre. Donc c'est quand même mieux que prévu, une certaine résilience de l'économie française au quatrième trimestre.
En revanche, du côté de l'inflation, eh bien, elle accélère en janvier. Les prix progressent de 6% après 5,3% en décembre, selon une première estimation de l'INSEE, tirée par la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie. De son côté, le FMI revoit ses prévisions à la hausse. La croissance mondiale devrait être meilleure qu'attendue cette année, avec une progression de 2,9% du PIB, tirée par les États-Unis, la Chine et l'Europe. À noter toutefois une exception, le Royaume-Uni, qui devrait être le seul pays du G20 à connaître une récession cette année, avec une baisse du PIB de l'ordre de 0,6%. À la une en France, c'est la deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Comme les écoles et les transports, le secteur de l'énergie est très touché. Les raffineries et dépôts de carburant de Total Energy comptent entre 75 et 100% de grévistes. Les expéditions de pétrole sont interrompues et la production d'électricité a d'ores et déjà diminué de 3000 MW dans les centrales d'EDF. La caisse des dépôts va prendre le contrôle d'Orpea. Selon Libération, un accord a été trouvé avec une partie des créanciers. Ils ont accepté de tirer un trait sur 70% des 3,5 milliards d'euros de dette. Le titre est suspendu à la Bourse de Paris. Nouveau départ chez Orange. Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, va quitter ses fonctions dans 2 semaines après l'annonce du nouveau plan stratégique du groupe. Elle sera remplacée à partir du 3 avril par Jean-François Fallacher, le patron de la filiale espagnole. C'est le deuxième départ à la direction après celui du directeur financier Ramon Fernandez, qui rejoindra l'armateur CMA-CGM. Au chapitre des résultats d'entreprise dans le secteur bancaire, UniCredit multiplie son bénéfice net par 3 à 6 milliards et demi d'euros en 2022. Un record pour la deuxième banque italienne. C'est nettement supérieur au consensus. De son côté, UBS annonce un bénéfice net en hausse de 23% au quatrième trimestre, 1,6 milliard de dollars, malgré une baisse de ses revenus dans sa banque d'investissement. C'est là aussi meilleur qu'attendu. Et puis on termine avec un chiffre, 151 milliards d'euros. C'est ce que le plus gros fonds souverain du monde, celui de la Norvège, a perdu en 2022. En cause, les mauvaises performances des marchés financiers provoquées par la guerre en Ukraine et la détérioration de l'économie mondiale. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve là aussi dans une heure pour suivre l'actualité économique. Et tout de suite, on plonge dans la côte parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Grâce à Eric Lewin, bonjour Eric.
Bonjour mon cher Cédric.
Pour la Bourse au quotidien, et vous nous proposez ce matin un focus sur Alten. Pourquoi ce choix ?
Écoutez, Alten, leader européen dans ce qu'on appelle la R&D externalisée, vous savez, c'est les prestations de conseil en technologie. Le groupe vient de publier son chiffre d'affaires annuel qui est évidemment très bon. Chiffre d'affaires plus 29,7%, quasiment 4 milliards d'euros, avec plus 17,7% en organique, notamment un plus 20,7% à l'international. L'international qui représente 67% du chiffre d'affaires d'un groupe dont les activités sont extrêmement bien équilibrées entre la banque 28%, l'automobile 20%, l'aéronautique 19%. Ils sont très présents aussi dans ce qu'on appelle les sciences de la vie. Ils sont notamment présents sur tout ce qui est l'e-santé. Le groupe se porte bien. D'ailleurs, d'année en année, il améliore ses perspectives. Alors, les résultats ne sont pas encore sortis. Ça sera pour dans quelques semaines, mais on peut tabler très tranquillement sur une marge opérationnelle qui devrait être encore au-dessus de 10%. Le groupe, en termes de croissance externe, fait toujours des petites opérations de croissance externe extrêmement bien ciblées. Il y en a eu 8 en 2022, mais pourtant le groupe est quand même en trésorerie nette positive, avec en permanence ces acquisitions qui sont relutives, c'est-à-dire qui contribuent à la croissance du bénéfice par action. Alors pourquoi ce titre ? Ben pour jouer l'excellence dans un secteur qui va bien, qui devrait continuer à progresser en 2023. Pourquoi ? Ben on a toujours besoin de digitalisation, c'est évident, mais dans tous les secteurs, on a de plus en plus besoin de prestations, de conseils, dans l'automobile notamment pour la voiture électrique, dans la banque pour accélérer les process. Bref, l'action me plaît. Alors certes, elle a gagné 21% depuis le 1er janvier, mais elle est quand même loin de son plus haut historique de 163,30€. Là, on vaut autour de 140€. Moi, mon feeling, c'est que cette année, ça peut être encore une très bonne année pour la société, qui peut aller au-dessus de son plus haut historique, aller voir les 170€. En termes de ratio, c'est pas encore très cher. En PE, ça vaut 15 et en VSUROC, ça vaut 12. Ça me paraît être vraiment l'un des plus beaux dossiers dans ce monde des techs. Bien sûr, il y a Capgemini qui est incontournable dans les ESN, mais Alten est vraiment incontournable dans ce monde de la R&D externalisée, où il y a encore pas mal de spécialistes en bourse, des Sogeclair, mais ce sont des sociétés notamment beaucoup plus petites.
Donc 139,20 ce matin, en hausse de 0,43%, vous visez donc au minimum le plus haut, 170.
Oui, 170, et puis il y a un aspect que j'ai pas évoqué, Cédric, c'est l'aspect opérabilité de la société, puisque le flottant est de 83%, et que le capitaine du groupe, en l'occurrence Simon Azoulay, j'ai pas envie de dire on est proche de la retraite, parce qu'on sait pas quand commencera la retraite, et chez les chefs d'entreprise, c'est toujours beaucoup plus tardivement, mais à terme, une vente du groupe ne serait pas exclue, parce que, je vous le dis encore une fois, un flottant de 83%, et puis notons que Alten, c'est quand même un groupe qui pèse quasiment 5 milliards d'euros de capitalisation, donc ils sont bien placés, ça pourrait intéresser un très gros du secteur, même si c'est pas l'argument principal de la vente que je vous fais ce matin.
Voilà donc un éclairage proposé ce matin sur ce dossier Alten par Eric Lewin. Donc recommandation d'achat, objectif de cours 170 € pour un titre qui se négocie ce matin à 139,20, en hausse de 0,43% dans un marché qui en ce moment est lui en baisse de 0,4%, 7053 points. Eric Lewin donc depuis la bourse au quotidien.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
L'heure de retrouver Irina Topasseri qui nous attend du côté d'AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour une journée très chargée. D'abord parce qu'il y a beaucoup de publications statistiques, il y a de la croissance, il y a de l'inflation, et ce, un peu partout. Donc déjà, qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'il faut en dire? Voilà, quels sont les principaux indicateurs que vous nous recommandez de ne pas rater pour cette journée chargée?
Vous avez raison. Je pense qu'on va déjà acquiescer heureux du fait que la croissance au quatrième trimestre, à peu près partout en Europe, se tient mieux que craint. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc je pense qu'il y aura des révisions effectivement sur, ne serait-ce que mécanique, si vous voulez, dû à la force, enfin en tout cas à la moindre faiblesse du quatrième trimestre, vous aurez des effets sur les prévisions pour toute l'année 2023 en cours. Hein, donc on part d'un niveau plus haut. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein. Ça c'est la première des choses. La même chose des deux côtés de l'Atlantique à mentionner aussi, parce qu'aux États-Unis pareil, quatrième trimestre a été plus fort qu'attendu. Effectivement, les économies ralentissent. Certaines même se contractent légèrement, mais bien moins que prévu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, on l'a validé un petit peu aussi dans le blog du FMI avec les nouveaux chiffrages de croissance économique mondiale. Donc, on voit tout ça. Deuxième point peut-être positif, on a eu les PMI en Chine. Et donc, on les attendra pour le reste du monde au courant de la semaine. Et là, donc, vous savez, un des risques qu'on voyait, qu'on tenait toujours un peu au coin de l'œil, qu'est-ce qui va se passer, comment cette reprise post-ouverture, post-déconfinement se passera, elle se passe très bien. Donc, on a une confirmation, une première confirmation. Le rebond de la confiance des directeurs d'achat en Chine est massif, notamment dans le secteur des services, mais aussi le secteur manufacturier qui se tient bien. On voit que cette nouvelle année, donc les célébrations de la nouvelle année chinoise donnent ce coup de fouet dans les services avec une reprise très rapide, et on valide en quelque sorte le fait que le pic des infections Covid semble être atteint mi-décembre. Donc peut-être qu'on est sorti très rapidement justement, donc une reprise économique par la consommation qui se profile très joliment. Et même si vous voulez au-delà des PMI ou des directeurs d'achat, on a plein de petites données comme ça. On voit les revenus du tourisme, les revenus dans la restauration, les transports, les cinémas. Il y a un lancement énormément de blockbusters là en Chine. Enfin, on voit que tout reprend très fortement. Donc ça, c'est encore une fois du côté des bonnes nouvelles.
Bon. Est-ce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles ou est-ce...
Écoutez, il y a pas. Enfin, l'autre aspect à regarder au-delà. Et peut-être en parallèle de cette croissance qui tient mieux, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de l'inflation, parce que ça va être majeur pour les banques centrales. Et donc là, on va regarder effectivement comment l'inflation se tient. Donc là, on voit que on stagne un peu sur l'inflation. En France, on a eu aujourd'hui 7% l'inflation française. Bon, avec le prix de l'énergie qui remonte un petit peu, parce que dès qu'on enlève un peu les protections consommateurs mises en place par les différents gouvernements, on voit que voilà. Ça rouille un petit peu, donc il y a ça à confirmer. Comment ça va se passer? Ça va forcément, des inflations vont arriver, mais enfin bon, à quelle vitesse? Ça va être la grande le grand questionnement pour les banques centrales. On a eu l'Espagne, l'inflation en Espagne, qui, elle, pour le coup, on voit l'inflation sous-jacente remonter. Donc, bon, il y a la question, on aura demain l'inflation dans la zone euro. Et là, on se dit que l'inflation sous-jacente risque de se stabiliser au mieux à 5,2%, voire même prendre un petit peu un dixième de pourcentage de hausse. Donc ça, c'est pas terrible parce que de toute façon, on est dans la semaine des banques centrales, hein, quand même, il faut le dire. On a et la Réserve fédérale et la BCE et même la Banque d'Angleterre qui vont toutes prendre leurs décisions cette semaine pour la première décision de l'année. Alors, c'est un peu acquis en quelque sorte, les marchés, le consensus économiste, on sait très bien, enfin, on imagine tous que c'est 25 points de base pour la Réserve fédérale et 50 points de base pour la BCE. Ce qui nous importera plus, ça sera la tonalité, le ton qu'ils vont donner, parce que le quantum, on va dire qu'on s'accorde tous à peu près là-dessus.
Bien sûr.
Et la tonalité risque d'être encore une fois assez hawkish, toujours un peu tendue. D'abord parce que les conditions de financement se sont détendues. Donc ça, c'est quelque chose qui n'arrange pas les banques centrales dans leur lutte contre l'inflation, et surtout parce que le point d'orgue va se poser au mois de mars.
Oui, Irina, en fait, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que le job est terminé ?
Ah bah, le pivot, je pense qu'on ne l'entendra pas cette semaine. Hein. Je pense que ceux qui l'attendent seront déçus. Je pense d'abord que les banques centrales n'ont pas intérêt à le faire avant le mois de mars, où elles viendront toutes les deux d'abord, et la Réserve fédérale et la BCE, avec leur prévision de mois de mars, hein, qui donne un petit peu leur vision sur le futur. Donc, il faut l'accompagner avec ça. Donc, on a les dot plots aux États-Unis et puis donc la BCE qui vient avec son set de nouvelles prévisions au mois de mars. Je pense que non seulement, d'abord il y a deux choses à dire peut-être. La première, c'est que c'est la première fois dans ce cycle de resserrement que la BCE va faire plus que la Réserve fédérale. Donc ça, c'est déjà sympathique. Et je pense qu'on aura une deuxième fois au mois de mars la même chose. Et ça devrait en quelque sorte solidifier les gains de l'euro qu'on a pu voir ces derniers temps. Maintenant, je pense que si la Fed s'approche un petit peu plus de son pivot, je pense que la BCE, elle est encore plus éloignée. Hein. Bien sûr, l'économie est en stagnation, on va le dire. Hein. Donc voilà. C'est pas extraordinaire, c'est moins pire que craint, mais c'est pas extraordinaire. Mais enfin bon, la BCE ne semble pas convaincue dans les propos qu'on entend qu'une légère récession soit suffisante, si vous voulez, pour ramener l'inflation sur sa cible. Donc c'est là encore une fois que je vous ramène, je boucle la boucle sur les chiffres d'inflation qui prennent toute leur importance pour comprendre comment les banques centrales, et donc là la BCE en l'occurrence, va se détendre un petit peu sur ou pas sur l'objectif d'inflation. Mais le pivot, je pense qu'il faut pas et là la tentation est grande puisqu'on a eu la Banque du Canada qui a délivré ce qu'elle appelle une dernière hausse de 25 points de base. Donc en gros, elle annonce le pivot en se disant on pense qu'on a fait suffisamment et donc là on va faire une pause. Hein. Et donc, maintenant, je pense que nous n'avons pas entendu ça du tout dans les différents propos des membres du FOMC ou de la Banque Centrale Européenne. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus. Donc, le pivot, ça ne va pas être pour cette semaine.
Ben voilà, quelques idées. D'abord sur ces statistiques qui sont nombreuses et qui vont continuer hein, aussi tout au long de la semaine, et puis sur ces banques centrales. Merci beaucoup Irina.
Merci.
Irina Topasseri, donc depuis AXA IM ce matin, comme tous les mardis, pour nous accompagner dans ce monde macroéconomique. Le marché parisien qui, lui, se montre prudent hein, avant ces réunions de banques centrales. Moins 0,4% pour le CAC, 7053 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, La Vie Immo.
La Vie Immo qui accueille ce matin Xavier Hawkins, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président d'Edgar Suite. Alors, après une année 2022 sous le signe de la reprise pour le tourisme, comment s'annonce 2023, notamment pour votre industrie ? Est-ce que vous anticipez une période moins facile, des difficultés même peut-être ou pas? Enfin, comment voyez-vous les choses?
Alors en effet, comme vous le précisez, le 2022 a été une année de retournement. Les consommateurs, notamment ce qu'on a qualifié de revenge consumering, de revenge travel, se sont rattrapés de plusieurs années d'absence de voyage, d'absence de tourisme. Donc depuis à peu près le deuxième semestre 2022, les niveaux de fréquentation et les prix ont été particulièrement élevé. Pour 2023, on observe aujourd'hui un cahier de commandes qui est à peu près équivalent à celui du deuxième semestre 2022, donc très enthousiasmant. D'autant plus qu'il nous manque encore la clientèle chinoise, enfin plus globalement asiatique, mm-hmm. qui va venir aussi contribuer à cette reprise au cours de l'année. Donc globalement, tous les acteurs sont positifs sur cette année 2023.
Donc vous voyez plutôt du vert?
On voit du vert.
Il y a quand même quelques nuages qui gâchent le panorama ou est clair?
Non, quelques nuages. C'est difficile de prévoir l'avenir en général, mais dans ces temps, troublés, c'est un petit peu plus difficile. Il y a évidemment des petits enjeux sur l'inflation globalement et la récession qu'on nous annonce, même si aujourd'hui, il semblerait que les dépenses de tourisme soient plus préservées que d'autres dépenses. Alors peut-être que ça fait partie aussi des gens qui sont les plus fortunés, qui peuvent encaisser les augmentations de l'inflation sur leurs produits de consommation courante. Mais le public, en tout cas relativement aisé, ne sacrifie pas ses dépenses de voyage.
Alors, il y a effectivement ces questions d'inflation, etc. Et puis, quand on discute ensemble, on est à la croisée de ce secteur pur du tourisme et puis du secteur de l'immobilier. Et là, on a des questions de hausse de taux, on a des questions de prise à bail. Comment est-ce que tout ça, vous le mettez aussi en perspective, parce que voilà, il n'y a pas que savoir si les gens vont remplir les hôtels, il y a aussi de savoir comment on gère son...
Comment on développe, tout à fait, parce que donc on a une partie d'exploitation que vous évoquez, et puis on a une partie de développement, c'est trouver des nouveaux sites pour pouvoir installer de nouvelles résidences. Et là, il faut être très clair, l'impact de la hausse des taux sur le financement change la donne, puisqu'un certain nombre de projets sont valorisés sur des taux de capitalisation qui sont directement liés au coût du financement.
Donc, Monsieur Tout le Monde qui achète son appartement quasiment. Hein.
Exactement, si ce n'est que les taux pour les prochaines sont plutôt un peu plus chers que ceux des particuliers. Donc aujourd'hui, on est assez facilement à des taux de 4-5% pour financer des projets immobiliers. Là où on était à peut-être 2-2,5% il y a encore quelques mois. Donc ça change la donne.
Ça veut dire clairement, quand on dit ça change la donne, c'est-à-dire que ça grève ou ça empêche une partie du développement.
Exactement, il y a certains projets qui ne passent plus. Et on est dans une phase un peu de convergence entre les prix qui sont dans les cerveaux des vendeurs et la réalité des business plans. Et on a cette petite phase de baisse du volume de transactions qu'on observe sur le marché professionnel, qui est liée à ce petit temps de latence pour que le marché, la main invisible d'Alan Smith là, qui fait rapprocher l'offre de la demande, se cristallise vers un niveau de prix acceptable.
Et aujourd'hui, il n'y a que la question du financement, que la question des taux, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres impondérables comme le prix des matières premières qu'on évoque régulièrement, et puis même les questions de main-d'œuvre, les questions de... Voilà. Est-ce que tout ça vient aussi...
Alors c'est vrai. Alors
mettre du sable dans les rouages.
Ouais. Sur la partie exploitation, on va dire globalement l'hospitalité et le tourisme est finalement assez peu exposé à l'énergie. Hein. Globalement, c'est de l'ordre de 2-3% des dépenses d'un hôtel ou d'une résidence hôtelière. Là, par contre, la vraie difficulté, c'est le recrutement. On a une inflation des salaires et alors nous, Edgar Suite, on est entreprise à mission. Depuis la fondation de la société, on a toujours vraiment porté une grande attention aux équipes qu'on emmenait et à la façon de les rétribuer de leur contribution. Donc on a supprimé un niveau hiérarchique, on a des gens qui sont beaucoup plus polyvalents que dans des alternatives hôtelières classiques, ce qui nous permet d'avoir des taux de turnover très faibles et d'avoir certaines facilités pour recruter. Après, sur la partie développement immobilier, le renchérissement des matériaux est palpable, même si on voit que sur tout un tas de matériaux, on a atteint un petit peu une phase plateau. Donc c'est pas si dramatique que ça.
Dans votre modèle, il y a aussi une particularité, c'est que vous repartez souvent d'un immobilier particulier pour en arriver à développer le modèle que vous développez, qui est plutôt, comment le dire, de suite hôtelière, c'est ça. Voilà. Bon, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de trouver ou de réhabiliter cette typologie d'immeuble, voilà. Alors, on va prononcer le mot de passoire énergétique, de rénovation, de tout ça. J'imagine que vous n'êtes pas exempt.
Bien sûr. Donc c'est un enjeu. Alors on va dire que ça, on a un marché un peu à deux vitesses. Autant le marché des bureaux intramuros à Paris ne connaît pas de difficultés locatives. Donc les propriétaires continuent à trouver des locataires à des bons niveaux de loyer. En revanche, notamment tout ce qui est en première couronne ou tous les actifs qui sont pas exactement en phase avec les attentes des utilisateurs, donc qui manquent d'horizontalité, qui manquent de hauteur sous plafond, qui manquent d'espace extérieur pour que les salariés puissent avoir une vie épanouie au bureau. Ben, tous ces actifs-là, sans être totalement obsolètes, leur valeur de marché est devenue plus faible qu'avant le Covid.
Donc, évidemment, vous avez un sourcing pas
voilà,
si compliqué.
Donc, nous, ça nous donne des opportunités parce que, du coup, il y a des propriétaires qui, au gré des libérations de baux, et c'est aussi une période où ça se matérialise puisque un certain nombre de grands groupes ou d'entreprises de taille moyenne se posent des questions sur diminuer leur surface, déménager, regrouper. Donc, il y a des baux qui se libèrent. Et le propriétaire, à cette occasion, il se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets un petit peu d'argent pour repartir sur un cycle à location on va dire de bureau, ou bien est-ce que je me dis ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent, de changer la classe d'actifs et de repartir sur un cycle complet long de 12 ans ou peut-être de vendre. Et donc pour nous c'est des occasions d'opportunité.
Du coup il nous reste une petite minute, mais quelles sont vos perspectives 2023 finalement? C'est quoi le livre de marche d'Edgar Schwitt?
Alors nous, notre actualité, on va dire, c'est de passer à un développement national. Jusqu'à maintenant, on exploitait pour l'essentiel en région parisienne et on se rend compte qu'il y a des opportunités, notamment dans les capitales régionales. Donc on va ouvrir deux résidences à Lille et nous avons procédé à l'acquisition d'un immeuble à Cannes. On a à peu près investi 80 millions d'euros là sur les 18 derniers mois et c'est le montant qu'on projette d'investir à l'acquisition sur les 4 prochaines années. Donc un développement en région parce que, là encore, l'offre d'appart-hôtel ou l'offre, on va dire, d'appartements à louer en province est un peu en retard de la demande. Et donc, pour nous, c'est là aussi des opportunités qui vont se présenter.
Xavier O'Quinn, merci d'être venu nous voir ce matin.
Merci pour votre accueil.
Pour Edgar Schwitt. Dans un instant, on va filer sur le marché pour prendre le pouls graphique et technique de cette séance un peu particulière, non pas techniquement sur le marché, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de statistiques et on rentre dans nos deux jours de banque centrale. Donc, on verra ce que graphiquement on peut en penser. On retrouve dans un instant Jean-Louis Cussac que l'on aperçoit du côté de Perceval Finance Conseil. On sera en ligne également avec Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. N'oubliez pas les replays qui vous attendent également sur le site. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, deux traders se mettent à votre service. On retrouve Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux, merci d'être au rendez-vous. Bonjour. On commence avec vous Romain, qu'est-ce qu'on se dit sur la tendance séance en cours à Paris?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Que ça y est, on consolide un peu. Non, c'était entamé hein, cette consolidation, même si elle est forte depuis mi-janvier. En réalité, elle a été repoussée la semaine dernière par Wall Street qui est arrivé en soutien, qui sous-performait, qui a permis à l'indice de tenir. Mais on est évidemment assez prudent et on voit qu'il y a des prises de bénéfices et un peu d'attentisme avant les quatre jours à venir qui vont être extrêmement denses. Je vous refais pas tout le calendrier. On le connaît et donc il y a effectivement une petite consolidation. Reste que globalement il y a du soutien sur les futurs, notamment sur les futurs américains depuis quelques séances. On a eu un tout petit peu de pression baissière hier sur le futur CAC 40. C'est inchangé sur l'Eurostoxx alors qu'on a baissé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pression baissière globalement et que la main est toujours à la faveur des acheteurs. Globalement, les opérateurs sont aussi couverts. Sur l'indice CAC 40, c'est quasiment deux options de vente pour une option d'achat sur les niveaux actuels. Donc on est prudent sur l'Eurostox aussi, et même sur les actions américaines, on constate qu'il y a un ratio de couverture qui est important aussi. Donc tout le monde attend ce virage, ce rendez-vous de la Fed et des GAFAM avec prudence, et c'est plutôt un signe de force globalement du marché, même si globalement on utilise ces petits excès de court terme pour réaliser des écarts en intraday sur du futur, mais ça reste à la faveur d'un marché haussier à moyen et long terme. En témoigne la volatilité aussi qui est toujours assez tendue. Hein. On est toujours en zone de vigilance. Malgré la hausse qu'on a connue la semaine dernière, le VIX ne se détend pas. Il reste toujours en zone donc de vigilance. On n'est même pas en optimisme et donc encore moins en euphorie. Globalement, on a deux catégories d'investisseurs et c'est un élément intéressant. Enfin, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sous-investis et qui le disent, voudraient acheter sur repli. Et puis, on a d'autres qui étaient dans le marché et qui se couvrent sur les niveaux actuels. Donc ça veut dire que même si on avait une mauvaise nouvelle, ça n'empêcherait pas le marché de baisser, mais ça ralentirait le mouvement, ça ne surprendrait pas les opérateurs et on aurait une forme de put, de soutien acheteur plus bas. Alors graphiquement et techniquement, comment ça se traduit sur le futur CAC 40? On est dans un grand trading range 6997-7115. On consolide et on est allé buter deux fois sur 7115 à quelques jours d'écart. Donc ça donne cet effet de consolidation latérale. La médiane du trading range, c'est 7070,5. Tant qu'on est en dessous, on a un biais plus baissier. Donc, on essaye, nous, de proposer des stratégies de vente contre ces niveaux pour aller chercher le bas du range. On a des zones de soutien, 7033, 7043. On voit qu'à chaque fois qu'on la touche, on rebondit à l'intérieur. Mais donc, c'est ce qui fait qu'on prend du bénéfice. Mais ça ne veut pas dire que le sens change. Et donc, on peut aller chercher des extensions jusqu'à 6997 comme ça. On pense encore une fois que la correction va être modérée. Ceci dit, si on casse 6997, on peut aller chercher une zone 6865-6877 assez facilement et sans que ça remette du tout en cause la tendance. Et ce serait au contraire un point d'entrée intéressant pour des stratégies de moyen long terme sur plusieurs sur des valeurs.
Voilà quelques idées défendues par Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, comment voyez-vous cette séance à Paris?
Alors, de la même manière qu'hier, nous sommes en effet sur le même niveau qu'hier à la même heure, à quelques points près. Derrière, nous avions été chercher 7040 et le soir, nous étions remontés à 7110, vous vous rendez compte? Alors, bon, ce marché conserve un maximum de chances de rebondir tant qu'il est au-dessus de 7040. Donc moi, je continue comme hier, j'achète jusqu'à, on va dire, et sur signal et en fractionnant jusqu'à 7040, on a commencé à 55, on a mis 56, 46, 41, voilà, tout simplement pour essayer d'optimiser un tout petit peu, mais c'est vraiment aussi parce que le marché est très 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 mou, il baisse tout doucement, il se passe pas grand chose, on a 15,5 de vol implicite, donc il y a toujours une méfiance quand même assez importante, et sur les options échéances hebdomadaires sur le marché américain, on a 27, 28 de vol, parce que là, si vous voulez, ils jouent à fond ce que va dire Powell. Alors Powell, on a beaucoup d'interrogations. Christine Lagarde, elle pourrait être, enfin, on craint qu'elle soit davantage au quiche, et donc voilà, les paris sont en cours, mais on en est là. Il n'y a pas d'idée d'investissement fort sur ce niveau. On voit bien que depuis 10, 15 jours, enfin 12 jours, il n'y a pas de relais, on se pose pas mal de questions. Et dans toutes les statistiques économiques qui plaident en gros pour un soft landing, mais on y trouve un peu ce qu'on y cherche. Si vous voulez, les hawkish vont y trouver un réconfort à ce qu'ils pensent, et les dovish également. Vous voyez, donc il y a un peu de tout là-dedans, dans tout ça, en tout cas beaucoup d'interrogations. Un marché qui a toujours quand même une attente optimiste. Il y aurait le signal vraiment, ça je le répète tous les jours, d'une consolidation qui apparaîtrait sous 6950. En gros, si vous voulez, jusqu'à 6950, le marché conserve un maximum de chances de rebondir à moyen terme, court-moyen terme, par rapport à 7040 en intraday. Et le dollar... L'euro-dollar, là, c'est pareil, il baisse un petit peu parce que les perspectives économiques de la zone euro sont un peu plus discutables, notamment hier avec l'Allemagne. Et pourtant, en Espagne, le taux d'inflation était supérieur aux attentes, alors ça aurait pu renforcer. Mais bon, là, c'est vraiment la crainte des perspectives économiques qui se dégradent un petit peu dans la zone euro qui affecte l'euro. Mais voilà, jusqu'à 1,0805 ce matin, nous proposions un achat sur repli. Donc, nous l'avons fait et on a un petit rebond. On est copié-collé des jours précédents avec toujours une attente quand même assez optimiste.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil, Romain Daubry au cœur de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Romain, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance et ce marché qui donc pour le moment perd 0,5%, 7045 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Où est passée la récession ? Le pire semblait certain à l'automne et finalement les indicateurs sont meilleurs que prévu. Le FMI relève sa prévision 2023. Que nous dit-on du côté de Washington ?
Eh bien, pas de récession dans les pays avancés. Pays avancés, hein, pays émergents, c'est un vrai au-dessus, c'est un autre sujet, mais important. Et puis, l'économie chinoise va repartir, ça va entraîner l'économie du monde entier. Donc la prévision de croissance est revue à 2,9% pour 2023. Celle de la France est placée à 0,7%. Un peu au-dessus de celle du gouvernement. Mais l'INSEE, ce matin, a également annoncé des nouvelles rassurantes, puisque le quatrième trimestre se termine à plus 0,1, là où l'INSEE attendait moins 0,2. Et l'année 2022, en France, se termine sur 2,6% de croissance, là où l'INSEE attendait 2,5. C'est donc, c'est pas le... On est un peu l'épaisseur du trait, mais c'est mieux que prévu. Et on démarre 2023 avec un acquis de croissance 2022 de 0,3 points.
Comment
partout il y a ces nouvelles meilleures que prévues en fait.
Et comment s'exprime concrètement cette résistance inattendue de l'économie mondiale.
C'est inattendu. Tout le monde disait l'Amérique va dans le rouge. Ben elle va pas dans le rouge. Elle termine 2022 à 2,9% et le pic d'inflation a été franchi à la fin de l'année dernière. L'Espagne là affiche un taux de chômage le plus bas depuis 2008. Bon, ça reste élevé bien sûr. Vous prenez l'Allemagne. On était sûr que l'Allemagne allait entrer en récession, trop dépendante de l'industrie, trop dépendante du gaz russe. Elle arrive à s'affranchir en tout cas en ce moment du gaz russe, et le scénario de la récession a été écarté officiellement par Olaf Scholz lorsqu'il est passé à Davos. Prenez la France, le moral des patrons est remonté récemment au-dessus du niveau qui marque la contraction de l'activité. Personne ne s'y attendait vraiment. Intention d'embauche toujours bien orientée. Projet d'investissement, c'est pas le Pérou, mais ça s'est pas écroulé. Vous prenez la catégorie A de Pôle emploi en 2022, elle a reculé quand même de près de 10%. Quand même un peu plus de 312 000 demandeurs d'emploi en moins. Ici, vous en parlez souvent, les résultats des entreprises, qui sont pour l'instant rassurants. Le CAC 40, qui est au-dessus de 7 000 points, pas si loin quand même de ses records absolus. Les recettes fiscales de Bercy, qui ont explosé les prévisions l'an dernier. Et pourtant, les impôts baissaient. On finissait d'éteindre la taxe d'habitation. On a continué à baisser l'impôt sur les sociétés. Et il y a eu des milliards et des milliards de recettes imprévues supplémentaires. On pensait qu'on aurait des coupures de courant. Ben non, il n'y a pas eu de coupure de courant. À la fin de la semaine, on sera à 10 réacteurs arrêtés sur 56. C'est quand même une prouesse qu'il faut souligner parce qu'on pensait que ça se passerait beaucoup plus mal. Le pic d'inflation, évidemment, il n'est pas pour maintenant. Parce qu'on a les phénomènes de semi-fin du quoi qu'il en coûte. Et notamment à la reprise de la Chine, qui a priori vont doper un peu l'inflation, mais on peut espérer un pic d'inflation mi-2023. L'immobilier, dans aucun pays à part la Chine, il y a eu un décrochage brutal de l'immobilier qui est à tous les coups un accélérateur de crise. Finalement, ce qu'on dit là, on n'aurait pas probablement exprimé de la même manière si on avait regardé précisément fin octobre, début novembre.
Justement, comment on explique cette crise annoncée, presque attendue, qui finalement ne vient pas ?
Je crois que la première réponse, c'est un grand exercice d'humilité. Les économistes, ils perdent un peu leur latin. Et objectivement, personne ne comprend vraiment tout ce qui se passe. Et parfois, il faut admettre qu'on n'a pas forcément une explication à tout. Après, il y a la réouverture de l'économie chinoise qui s'annonce. C'est vrai que 3 années de zéro Covid désastreux, ça va quand même faire du bien. Vous avez les hausses de salaire, hausses de SMIC, ça tire la consommation mécaniquement. Puis il y a aussi le fait qu'on vit 3 chocs qui sont les pires chocs qu'une économie peut rencontrer. Vous mettez une pandémie, vous ajoutez une guerre à nos portes et un choc énergétique, je vois pas 3 éléments plus terrifiants pour une économie que cela. Et ce qui fait que la nature humaine confirme qu'elle s'adapte à tout. Aux situations les pires, c'est Koh-Lanta, si vous voulez. Maintenant, on sait vivre avec un virus, on sait vivre avec des bruits de bottes. On a appris à vivre sans gaz et sans pétrole russe. On a une capacité de résilience qui est toujours insoupçonnée. Après, il y a la raison la moins réjouissante. C'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on vit probablement les effets des années de quoi qu'il en coûte et de boucliers tarifaires. On a injecté des milliards d'argent public vers les acteurs privés. Il y a un moment, ça finit par avoir un effet. C'est ce que disait Ludovic Subran ce matin. Il disait, attention, vous ne réjouissez pas trop vite. Il y a un côté queue de comète quand même des wagons d'argent public qu'on avait déversé dans l'économie. l'économie. Mais c'est vrai que cette histoire, ça ressemble un petit peu aux gros orages qu'on vous annonce tous aux abris, puis finalement, ça se résume à quelques gouttes. On a presque envie de dire que ça fait, ça confirmerait l'idée qu'on a inventé les économistes pour que les météorologues se sentent moins seuls, vous savez.
Oui, c'est, Maxime célèbre et toujours apprécié des deux professions citées. Donc, pour le moment, récession de éviter. Est-ce que quelque chose pourrait faire mentir ce regain d'optimisme ?
Déjà, il va falloir voir ce que vont faire les ménages des pays avancés de leur stock d'épargne monumentale. Ça, c'est un vrai sujet. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de désépargne. Après, récession évitée, mais attention, année 2023, pas d'accident, mais pas d'étincelle, pas de gros relief. On va dire année 2023, probablement année tranquille. Après, il faut voir aussi que les effets de l'inflation, ça prend du temps tout de même pour infuser. Et Jean-Marc Vittori, dans Les Échos, qui raconte qu'en 1973, le choc pétrolier, enfin le pétrole fait x4 d'un coup. Il faut attendre 9 mois pour avoir les effets récessifs de la très forte hausse des prix du pétrole. 2014, les prix du pétrole chutent fortement. Et ben la croissance ne va décoller qu'en 2016. Vous voyez, il y a quand même un laps de temps. Après, tout dépendra des velléités des banques centrales, à durcir ou pas, continuer à durcir ou pas les politiques monétaires. On aura un élément de réponse. Normalement, la BCE va nous mettre 50 points de base. Mais est-ce qu'elle fait 50 points de base avant 50? On ne sait pas encore. Et puis, souvenez-vous, on a beaucoup dit que l'hiver 2022-2023, ça allait bien se passer, mais que l'hiver 2023-2024, c'était moins évident. Et effectivement, peut-être que notre optimisme de début d'année, on va commencer à frissonner quand on va arriver au mois d'octobre-novembre prochain, en se disant, mince, on pensait ne pas passer correctement l'hiver 2023-2024. Et effectivement, le doute est permis, là.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui perd 0,5%, 7046 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
On accueille ce matin Benoît Lombard pour le groupe La Place. Bonjour Benoît.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous patrimonial pour s'intéresser ce matin au placement ou un des placements préférés des Français, l'assurance vie. Et on commence peut-être par quelques chiffres, histoire de rappeler le poids de cette assurance vie.
Le placement préféré des Français. Le taux d'épargne français, on en parlait un instant, 18% quand même en 2021. Mais dans le stock d'épargne des Français, dans les 5700 milliards qui appartiennent aux ménages français, eh bien, plus de 32% sont captés dans l'assurance vie, plus de 1800 milliards d'euros. C'est le placement fétiche.
Sur quel principe il repose ce placement fétiche ?
C'est un placement qui est singulier dans la construction juridique de l'univers des véhicules d'investissement. Je m'explique. Il repose sur un principe juridique qui est la stipulation pour autrui. En réalité, vous confiez votre argent à l'assureur, c'est une créance que vous avez sur l'assureur, d'où la raison pour laquelle la solvabilité des compagnies d'assurance, les ratios de solvabilité, les notations est importante. Vous lui confiez votre argent à charge pour lui, et bien de vous le restituer à votre demande, en cas de rachat, ou de le verser à un bénéficiaire désigné en cas de décès, d'où la raison pour laquelle il y a cette exonération partielle ou taxation partielle au titre des droits de succession. Le contrat est sui generis, puisque il y a une exonération que vous connaissez, 152 500 avant 70 ans par bénéficiaire, etc.
N'empêche que ce principe, ce contrat d'assurance vie, c'est un vieux produit d'épargne, mais qui, depuis qu'il existe, a plusieurs fois évolué pour s'adapter aussi au monde dans lequel il était et qui, il y a peu, a connu une dernière sérieuse évolution avec la loi Pacte.
Ben oui, la détention d'un contrat d'assurance-vie, c'est en moyenne 11 ans. Donc, et effectivement, comme vous avez un droit de créance sur une compagnie, vous ne pouvez pas céder ce droit de créance à notre compagnie. Et donc, cette transférabilité, cette portabilité, maintes fois invoquée, mise en place avec l'amendement Fourgous en 2005, réactivée, si je puis dire, avec la loi Pacte en 2019, où on avait donné la faculté, au sein de la même compagnie, eh bien de pouvoir transférer le contrat, porter le contrat, vieux contrat, que vous aviez, vers un nouveau contrat, au sein de la même compagnie, à supposer que l'assureur l'accepte, parce qu'il faut encore qu'il n'y s'y oppose pas, et à supposer que vous ayez effectivement en nouveau véhicule assurantiel un contrat un peu mieux, un contrat par exemple qui détiendrait des unités de compte.
Mais parce que Fourgous, c'était quand il y avait, quand sonnaient les multi-supports. Exactement. Et où on voulait que ceux qui avaient les contrats ancestraux qui étaient mono-support puissent aussi bénéficier du multi-support.
Et là, on a voulu juste offrir sur des multi-supports des facultés de pouvoir, je rappelle juste là un point important aussi, hein, 75% de l'assurance vie est logée dans des fonds euros. 25% en unité de compte. Ça veut donc dire que les fonds euros, une construction singulière, spécifique, qui fait que la portabilité totale pourrait poser des difficultés.
Alors justement, portabilité, puisque c'est le nerf de la guerre, elle avait été partielle avec cette loi Pacte, et aujourd'hui on en reparle.
On en reparle.
Parce que le combat ultime, c'est la portabilité totale.
Et aujourd'hui, ce 31 janvier, il y a plein d'événements dans la rue, mais il y a aussi... Au Sénat, on va discuter d'une proposition de loi de deux sénateurs républicains, dont Albéric de Montgolfier, qui vise à renforcer la sécurité des épargnants. Et dans cet renforcement de sécurité des épargnants, il veut lui donner la faculté d'être moins captif de son ancienne compagnie, en remettant au goût du jour cette portabilité totale de la créance que vous avez. Mais ça suppose, et ça c'est en débat, je peux penser que l'ensemble des assureurs sont contre, j'y suis partiellement opposé dès l'instant où on n'est pas en unité de compte, mais on est sur des fonds garantis. Car la singularité du fonds garanti est de construire un modèle qui distribue au fil du temps et ne prend pas en considération l'évaluation valeur de marché des actifs qui sous-tendent. On a à peu près 80% d'obligations. On a vu que l'année dernière, on a eu le plus fort crack obligataire de l'histoire de l'économie. Hein, moins 19 sur les obligations d'État. On était à 0%, on est passé à 2, on est à 2,70 aujourd'hui. Mais les assureurs, ils détiennent ces obligations. Et quand ils ont constitué leur stock de vieilles obligations, il y a 5, 6, 7, 8, 9 ans à des taux faibles, l'année dernière, il y a un an à zéro, à un moment donné... Si jamais on doit transférer cette provision, je termine juste, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va falloir qu'ils vendent. Et là, il va être pas en coût historique, en mark-to-model, mais en mark-to-market. Et donc là, on va matérialiser une perte. Donc s'il y a cette transférabilité totale, on va déstabiliser le système d'une part. Et d'autre part, l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire s'il y a cette transférabilité? Ben, il va juste dire une chose. Je vais prendre moins de risques. Je vais engager des capitaux sur des durées moins longues. Car j'ai un risque, à un moment donné, de devoir céder l'actif qui sous-tend.
Donc vous mettez aussi en parallèle ou en risque la portabilité et la hausse de taux actuelle.
Je dis qu'avec la hausse des taux actuels et le vieux stock d'obligations détenues par les assureurs, les matelas de sécurité qui existent dans le code des assurances sur la construction de fonds euros, les participations pour bénéfices, les provisions pour participation pour bénéfices, les plus-values latentes, les réserves de capitalisation ne suffiront pas à supposer que les assurés veuillent évidemment changer d'assureur. Je dis qu'il y a un risque et que cette bonne idée de rendre moins captif l'épargne entre les mains d'une compagnie d'assurance va se retourner contre les épargnants eux-mêmes si jamais on pousse cette idée que je trouve et que je trouvais déjà en 2019 farfelue, abracadabrantesque.
D'autant qu'il y a un autre risque. Fiscal, celui-là.
Mais oui. Hein,
c'est-à-dire qu'il y a quelques tireurs en embuscade.
Les tireurs en embuscade,
qui disent si jamais l'assurance vie perd.
Si jamais...
Certaines de ces spécificités, il n'y a pas de raison qu'elles gardent ces spécificités fiscales.
La création de la flat tax fait que, quel que soit le véhicule d'investissement, vous avez 30% d'impôt.
Assurance vie comprise.
18 d'hier, 17,2 de prélèvement social. Assurance vie comprise. Alors, on a la même fiscalité. On va pouvoir transférer ces actifs comme des titres qu'on détiendrait au sein de la contre-titre ordinaire, si je puis dire. Et on a toujours le régime dérogatoire de l'assurance vie que j'évoquais initialement. Je pense à un moment donné que si jamais on a un véhicule qui est comme les autres véhicules d'investissement, eh bien, on va appliquer l'intégralité des principes qui régissent l'ensemble des investissements financiers.
En clair, pour que tout le monde ait bien compris,
donc cette idée-là,
exit les droits de mutation. Quoi.
Qu'est-ce qui justifie? Et puis, je rappelle, la singularité de la construction du contrat, c'est la stipulation pour autrui. C'est une créance, c'est une singularité du droit français qui va à l'encontre du principe de base qui fait que quand on a deux personnes, eh bien, ces deux personnes sont liées, et pas une troisième. Là, une troisième personne, c'est le bénéficiaire. Attention, je pense que cette idée-là porte en elle les germes de modifications qui, in fine, nuiront aux 18 millions d'assurés qui détiennent des contrats d'assurance vie, mais pire encore, aux 38 millions de bénéficiaires.
Benoît Lombard, le président du groupe Laplace. Merci Benoît, on vous retrouve vers midi et quart avec Julie Cohen-Herton, surtout les supports digitaux de BFM Patrimoine. Julie, pour continuer effectivement à s'intéresser à ce monde de l'assurance vie.
Et alors, pas que l'assurance vie, tous les supports d'investissement. Si vous avez 30, 40 ou 50 ans et vous ne savez pas quel support d'investissement privilégier, eh bien, retrouvez-nous à partir de midi 15 sur tous les réseaux sociaux. Je serai donc accompagnée de Benoît Lombard pour le groupe Laplace. On répondra à toutes vos questions et d'ici là, écrivez-nous à l'adresse suivante bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.
Rendez-vous à midi et quart donc sur tous les supports digitaux pour ce petit focus, ce petit plus sur vos placements avec Benoît Lombard. À bientôt Benoît.
À bientôt Cédric.
Le marché parisien, 7046 points, moins 0,5% en ce moment. L'eurodoll est actuellement à 1,0823.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve maintenant Jean-Philippe Dubosc en duplex avec nous depuis toutsurmesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là. Les syndicats battent le pavé pour la réforme des retraites. La retraite, c'est un peu votre spécialité. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il faut comprendre, penser de cette loi, projet de loi en tout cas, auquel 72% des Français, c'est un sondage Elab pour nos petits camarades de BFM TV, 72% des Français se disent opposés à cette réforme. Pourquoi Jean-Philippe assiste-t-on à un tel rejet? Parce qu'en plus, ce chiffre de 72, il était bien moindre il y a quelques semaines, il y a quelques mois.
Oui, il ne cesse d'augmenter. Alors, Cédric, ce qu'il faut savoir, c'est que les réformes des retraites sont par principe impopulaires, tout simplement parce qu'elles demandent des sacrifices, donc forcément, ça ne plaît pas. Mais c'est vrai qu'on va dire que celle qui nous préoccupe aujourd'hui, semble particulièrement mal accueillie. On le voit par rapport à la réforme précédente, à la réforme Touraine, où certes, il y avait eu des manifestations, mais bien moindres que celles d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la réforme du SOPT, du nom du ministre du Travail qui la porte, pourquoi est-ce que cette réforme du SOPT est-elle si impopulaire? Eh bien moi je vois, Cédric, deux raisons. C'est parce que c'est une réforme à la fois injustifiée et c'est une réforme injuste. Alors pourquoi est-ce qu'elle est injustifiée? Cela ne vous a pas échappé, Pierre-Louis Bras, le président du Conseil d'orientation des retraites, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale pour discuter du projet de loi actuel que les dépenses de retraite ne dérapent pas. En fait, Cédric, il n'y a pas de vrai problème économique malgré ce que le gouvernement peut nous expliquer. D'ailleurs, quels que soient les scénarios du corps, en 2070, alors vous allez me dire 2070 c'est très long, oui mais en termes de retraite c'est après-demain, eh bien quels que soient les scénarios économiques, eh bien il n'y aura plus de déficit parce qu'on aura passé le fameux papy boom et aussi parce que c'est le fruit de toutes les réformes passées, notamment la réforme Touraine de l'ex-ministre des Affaires Sociales et de la Santé, donc qui avait fait la réforme précédente, et bien la réforme Touraine, on commence à sentir maintenant les effets. Et en plus, il y a moins de chômage, et moins de chômage, c'est plus de travail, et plus de travail, c'est plus de cotisations. Donc non, Cédric, il n'y a pas de vrai problème économique. Et d'ailleurs, je rappelle que lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, quand il penser reculer l'âge légal à 65 ans, justifié pas pour un problème de retraite. Il avouait qu'il n'y avait pas de vrais problèmes financiers. Il disait ça va nous permettre d'avoir des marges budgétaires supplémentaires pour financer le déficit public, l'école, l'hôpital, mais pas vraiment les retraites. D'ailleurs, c'est assez savoureux, mais on se rend compte que le gouvernement dit bien que certes les cotisations vieillesse supplémentaires qui vont être engrangées, puisque les gens vont travailler plus longtemps, vont être utilisées pour les retraites. Bah, c'est normal, c'est la loi. Quand vous versez une cotisation, vous avez le droit à une prestation. En revanche, ils avouent que ce surcroît de richesse nationale va se traduire par davantage d'impôts et de taxes qui vont aller dans le budget de l'État.
Donc ça, c'est pour la justification. Maintenant, vous nous dites aussi qu'elle est injuste. Pourquoi ?
Alors, elle est injuste parce que, Cédric, pour la première fois, moi, j'ai jamais vu ça, pour la première fois, une réforme porte sur une seule catégorie de la population. Normalement, les réformes des retraites, elles se basent sur trois piliers, on va dire, sur les actifs, sur les employeurs et sur les retraités. Là, la réforme du SOPT, elle se concentre, elle demande des sacrifices, des efforts uniquement aux actifs. C'est une première. Alors, on sait pourquoi. Pour ce qui est des employeurs, le gouvernement a dit non, pas les cotisations patronales parce que ça va surenchérir le coût du travail. Les entreprises françaises vont être moins compétitives. Bon, ok. Pour ce qui est des retraités, non seulement Macron a promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, mais surtout il a été un petit peu traumatisé, vous savez, par les gilets jaunes. Et à l'issue des gilets jaunes, il a promis que les retraites ne seraient plus désindexées par rapport à l'inflation. Et il a réitéré cette promesse lors de la dernière campagne présidentielle. Donc, c'est pas possible de désindexer les pensions. Mais on aurait pu, par exemple, prévoir une augmentation de la CSG pour ceux qui paient la CSG la plus élevée, c'est-à-dire ceux qui ont le plus, les plus hauts revenus. Et non, il n'en a rien été. Encore une fois, il n'y a que les actifs. Et même mieux, en fait, les retraités sont encore mieux traités, puisque vous avez la retraite minimum à 1 200 € pour ceux qui auront tout leur trimestre. Vous avez pour ceux qui touchent le minimum vieillesse, on peut récupérer en fait les prestations sur la succession. Et bien le plafond va être porté de 39 000 à 100 000 euros. Et puis le cumul emploi-retraite va de nouveau créer de nouveaux droits à la retraite. Donc non seulement on ne demande pas aux retraités de faire des efforts, mais même on leur fait des cadeaux.
Pour qui ça va être le plus dur? En fait, qui est le plus pénalisé par cette réforme?
Alors, clairement, pour simplifier, Cédric, on va dire que, bon, pour les cadres, pour ceux qui ont fait des études supérieures et qui, généralement, donc ont le statut cadre, ça va pas changer grand-chose. Parce que, actuellement, ils ont commencé à rentrer tard sur le marché du travail, 24, 25 ans, et vu qu'il leur faut 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, de toute façon, ils devaient partir à 64, 65 ans. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Pour les ouvriers qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont tout leur trimestre, ils pourront toujours, grâce au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, partir avant les fameux 64 ans. En fait, ceux qui vont être vraiment pénalisés, c'est ceux qui sont rentrés sur le marché du travail à 21, 22 ans, en gros, qui ont fait un bac plus 2, des employés, des techniciens supérieurs, qui, eux, vont devoir travailler vraiment 2 ans de plus. Et puis, pire que tout, c'est les personnes qui ont ce qu'on appelle des carrières hachées. C'est-à-dire que à cause de périodes de chômage, eh bien, ils n'ont pas tout leur trimestre. Or, vous avez vu qu'il y a une accélération de la réforme Touraine. On va exiger les 43 ans de cotisation plus rapidement. Donc, eux vont être encore plus pénalisés. En clair, pour faire très très simple, Cédric, les plus pénalisés aujourd'hui vont l'être encore plus demain.
Juste un petit mot pour terminer, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais juste un petit mot quand même sur les femmes. Franck Riester a reconnu que les femmes seront un peu pénalisées.
Oui, alors je vais être très très rapide. Comprendre, c'est que bon, bah déjà, les femmes, elles ont souvent des carrières hachées, on vient d'en parler, donc elles sont déjà pénalisées. Mais là, cette réforme, en fait, crée un nouveau cas, en fait, de personnes pénalisées. Ce sont les mères de famille qui ont tout leur trimestre, notamment grâce au trimestre pour maternité, donc qui auraient pu partir à 62 ans avec tout leur trimestre. Là, non seulement on va leur demander de travailler 2 ans de plus, mais sans décote, puisque en fait la surcote c'est à partir de l'âge légal. Donc si elles étaient parties à 64 ans avec les règles actuelles, elles auraient eu 10% de retraite en plus. Là, non seulement elles vont travailler 2 ans de plus, mais elles n'auront pas le bonus des 10%.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dubosc, tout sur mesfinances.com, qui était avec nous pour parler retraite. Le marché en baisse de 0,5%, on va voir ce qu'on nous en dit dans un instant, Antoine Larigauderi. Et puis juste après, ce sera Regard Croisé. N'oubliez pas les replays également qui vous attendent sur le site et qui vous permettent de nous retrouver à tout moment.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.